Les matins se poursuivent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous. Air France annonce la suppression de 7600 postes alors que c'est du jamais vu dans une compagnie aérienne nationale. Alors que la crise mondiale touche les compagnies aériennes dans le monde entier. Précision d'Hakim Kasmi dans un instant.
Emmanuel Macron dévoile en partie ce matin son cap et ses priorités pour les deux dernières années du quinquennat à travers un entretien publié dans la presse quotidienne régionale.
Décryptage du casse-tête de l'après-municipal et de l'avant-régional avec Stéphane Robert dans ce journal.
Un psychiatre de Seine-Saint-Denis lance l'alerte ce matin sur France Culture.
Les urgences psychiatriques sont débordées, conséquence de l'effet Covid, mais aussi du manque chronique de moyens et de lits. On entendra le docteur Faisal Mouafak, psychiatre et chef de pôle à l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard.
Plus de 55 000 personnes atteintes par la Covid-19 et recensées aux États-Unis en seulement 24 heures.
Oui, c'est un nouveau record selon le décompte effectué par Reuters, s'appuyant sur des données officielles. Et puis une bonne nouvelle pour les petites retraites en Allemagne, un niveau minimum est en train d'être instauré outre-Rhin. 5000 postes supprimés chez Airbus en France, ce qu'a confirmé hier le constructeur aéronautique, alors que le secteur aérien traverse la crise la plus grave de son histoire. Même si l'Europe a en partie rouvert ses frontières, la reprise reste encore timide. Face à l'effondrement du marché et des commandes, c'est un raz-de-marée économique qui ne semble rien laisser sur son passage, puisqu'aujourd'hui, c'est au tour de la compagnie Air France d'annoncer la suppression de 7600 postes du jamais vu dans cette compagnie qui ne fait voler pour l'instant que 15% de ses avions.
Si la moitié des 7600 suppressions de postes seront des départs en retraite, le choc est immense pour les salariés qui connaissent leur 7e plan de restructuration en 11 ans. Ce qui laisse dire à une partie des syndicats que la crise de la Covid-19 n'explique pas tout. Certains d'entre eux nous ont même confié qu'un plan massif d'économie était déjà dans les cartons dès l'arrivée de Ben Smith, le nouveau patron du groupe, il y a 2 ans. Concrètement, Air France prévoit donc 4500 emplois en moins au sol, notamment dans les fonctions support et les escales. Du côté des hôtesses et stewards, 1500 postes seront supprimés. Quant aux pilotes, ils ont déjà signé une RCC, rupture de convention collective, qui va concerner 403 d'entre eux. Des pilotes principalement issus de la flotte d'Airbus A380 que la compagnie a décidé d'arrêter d'exploiter définitivement car plus rentable vu le contexte économique. Enfin, la filiale régionale HOP va aussi payer un très lourd tribut avec 1000 suppressions de postes et les fermetures des sites de maintenance de Lille et Morlaix. De nombreuses lignes domestiques non rentables vont également être fermées à hauteur de 40% au profit de la filiale low cost d'Air France Transavia qui va désormais opérer des vols intérieur pour concurrencer les compagnies étrangères, notamment comme EasyJet. Des mesures qui répondent aussi à la décision du gouvernement qui, pour des raisons écologiques, va interdire l'avion pour des destinations inférieures à moins de 2h30 en TGV, comme par exemple Paris-Bordeaux ou Paris-Lyon.
Hakim Kasmi pour France Culture. Chez Air France, c'est donc un nouveau plan social, le 7e depuis 11 ans. 7600 postes vont être supprimés, dont 4500 chez les personnels au sol. Et cela malgré les 7 milliards d'euros d'aide de l'État. Un scandale selon Vincent Salles, délégué CGT Air France.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y avait déjà un plan de prévu qui nous a été présenté en janvier, qui prévoyait de supprimer 3000 à 3500 postes. Et qu'en fait, la crise est une opportunité pour la direction d'amplifier et d'accélérer une restructuration qui était déjà en cours. Et malheureusement, tout ça s'est fait sous couvert du gouvernement français et avec de l'argent public, donc ce qui est vraiment très déplorable. C'est pour ça qu'on peut s'interroger sur la question d'une aide. Parce qu'une aide pour supprimer des emplois et alimenter les chiffres du chômage, on peut se poser vraiment la question. En fait, ce que fait le gouvernement, c'est permettre et donner un blanc-seing à la direction d'Air France d'opérer des coupes massives dans la masse salariale pour pouvoir opérer la rentabilité dont ils rêvent depuis des années, c'est-à-dire obtenir une rentabilité de 8% pour pouvoir se caler avec leurs concurrents, notamment les low-cost, qui ont des rentabilités aux alentours de 8%. Et donc tout ça se fait au détriment des salariés d'Air France et c'est ça qu'on va combattre.
Un dossier signé Hakim Kasmi pour France Culture.
8h04 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Emmanuel Macron dévoile en partie ce matin son cap et ses priorités pour les deux dernières années du quinquennat à travers un entretien publié dans la presse quotidienne régionale.
Et oui, dans un contexte de crise économique et d'incertitude liée à une possible résurgence de l'épidémie de Covid-19, il dit vouloir tout remettre à plat et annonce 3 priorités, l'environnement, l'économie et le social. Mais ce qui ressort, c'est surtout une impression de naviguer à vue sur un océan d'incertitude, Stéphane Robert.
Une certitude ressort de l'entretien d'Emmanuel Macron avec la PQR hier, il va y avoir un remaniement. Une nouvelle équipe, de nouveaux visages, promet le chef de l'État. Quand ? Très vite, répond-il sans plus de précision. Avec Édouard Philippe ? Pas de réponse. Il se lance tout de même dans un portrait dithyrambique de son Premier ministre, quelqu'un avec qui il a su entretenir une relation de confiance très particulière, unique d'un certain point de vue, précise-t-il, à l'échelle de la Ve République. Pour le reste, il dresse un tableau assez sombre de ce qui nous attend à la rentrée. L'épidémie de coronavirus, elle peut revenir, admet-il. Il affirme se préparer à tout et par conséquent à un éventuel reconfinement. Une crise économique très dure nous attend également, annonce le président. Il s'agit pour lui de faire en sorte de limiter au maximum les plans sociaux, mais il y en a et il y en aura, prévient-il. Il faudra donc négocier avec les syndicats, ce sera du donnant-donnant. D'un côté, chômage partiel et formation pour les salariés. En échange, ils devront accepter modération des salaires et plus de flexibilité sur le temps de travail. La réforme des retraites, il n'y a pas renoncé. Il veut tout remettre à plat et relancer des discussions avec les partenaires sociaux dès cet été. Il entend aussi favoriser les investissements dans des projets décarbonés, priorité à l'environnement, priorité à la jeunesse également. Il veut encourager avec un système de primes l'embauche des 800 000 jeunes qui entreront dans quelques mois sur le marché du travail. Au bout du compte, le chef de l'État a dressé une feuille de route qui a semblé plutôt brouillonne, donnant le sentiment de ne pas vraiment avoir de cap. Il circonvoluait dans tous les sens, décrit un participant, et ça c'est un signe, il est fatigué.
Et juste après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Saïs se penchera sur le remaniement qui doit être annoncé d'ici à mercredi, alors qu'Emmanuel Macron est soumis à des injonctions contradictoires. Moins d'une semaine après le deuxième tour des municipales, l'installation des nouveaux conseils municipaux doit être organisée entre aujourd'hui et dimanche dans près de 5000 communes concernées. En banlieue parisienne, à Savigny-sur-Orge, l'installation est prévue de commencer ce dimanche. La ville a été elle aussi emportée par la vague verte. Cette commune, plus petite que Lyon ou Bordeaux, compte aujourd'hui environ 40 000 habitants. Et le nouveau maire, Europe Écologie Les Verts, vient de mettre fin à 37 ans de règne de la droite dans la ville. Hier soir, il a réuni une dernière fois ses troupes avant l'installation du nouveau conseil municipal. Anne Fauquemberg y était pour France Culture.
Un adjoint, il est élu au conseil municipal. Il a une écharpe bleu, blanc, rouge avec un petit pompon d'argent, alors que le maire a un petit pompon d'or.
Quitte à faire rire, Jean-Marc Defrémont insiste sur la symbolique, car même à Savigny-sur-Orge, pour l'écologiste, la pression, elle est là.
On est une banlieue avec un habitat assez disséminé, avec des problématiques sociales qui sont particulières. Il faut qu'on arrive à démontrer que la proposition de l'écologie politique fonctionne dans une commune comme celle-là.
Après le discours du maire sortant, dimanche, le doyen de la nouvelle équipe municipale prendra la parole. Jacques Sénicourt, 72 ans, a l'intention de parler des 65% d'abstention au deuxième tour.
Si la démocratie ne fonctionne plus, ce sont nos libertés publiques qui risquent d'être entamées. C'est quand même important, effectivement, qu'on fasse le maximum, effectivement, pour que la démocratie puisse progresser de nouveau. Quoi.
Et les nouveaux élus sont prêts à se retrousser les manches, comme Joël Thébault, qui souhaite développer la démocratie participative dans le quartier de la gare, en pleine réhabilitation.
Si on est individuellement face à un promoteur, on va se faire croquer. Donc il faudra qu'il y ait des solidarités à l'intérieur du quartier pour qu'il y ait un dialogue quand on en sera là.
La nouvelle majorité qui entend aussi défendre au niveau de l'intercommunalité de nouvelles règles d'urbanisme pour préserver le cadre de vie des habitants.
Nos élus doivent prendre leurs fonctions entre ce vendredi et dimanche. 17 communes n'ont pas élu de maire après le second tour des municipales le 28 juin dernier. C'est près de 3 fois plus qu'il y a 6 ans en France, selon une information de nos collègues de France Info ce matin. Ces communes se retrouvent ainsi sans élus et totalement figées en attendant de nouvelles élections. Parmi elles, 4 communes de plus de 1000 habitants, comme Bouella dans l'Ain ou encore Prunay-le-Gillon en Eure-et-Loir, et 13 communes de moins de 1000 habitants, comme Saint-Hyter en Saône-et-Loire ou encore Miquelon-Langlade à Saint-Pierre-et-Miquelon. Effet Covid ou effet boule de neige, aussi des manques d'effectifs dans les hôpitaux publics. Les urgences psychiatriques sont débordées. La ville de Saint-Denis en banlieue parisienne est submergée alors qu'elle accueille déjà en moyenne 28 000 malades psychiatriques par an et qu'il y a 2 fois moins de lits de psychiatrie qu'à Paris dans cette commune par rapport au nombre d'habitants. Depuis quelques semaines, le nombre de malades a pratiquement doublé en raison de la crise sanitaire. Alerte le docteur Faisal Mouafak, psychiatre et chef de pôle à l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard.
Depuis le début du mois de juin, on ne vit pas une vague, on vit un tsunami. On a un retour de bâton de tout ce qui s'est constitué en termes de rupture thérapeutique, de désocialisation, en termes de perte d'emploi, de deuil. Toutes les répercussions psychologiques de ces traumatismes-là se sont traduites cliniquement par des épisodes psychotiques pour certains, pour d'autres des manifestations anxieuses, des états dépressifs. Et donc tous ces patients-là ont commencé à arriver dès le début du mois de juin et on a vu monter le niveau d'activité de notre service d'urgence jusqu'à une fois et demie, voire deux fois l'activité habituelle. Donc vous pourriez me dire, vous travaillez deux fois plus, c'est pas très grave. Mais en fait, j'ai fait quelques statistiques. En moyenne, les patients qui sont arrivés au mois de juin et qui étaient orientés en hospitalisation sont restés 28 heures. Ils ont séjourné 28 heures en moyenne aux urgences.
Alors qu'avant l'irruption de la Covid-19 en France, les patients restaient moins de 6 heures aux urgences avant d'être hospitalisés, précise le docteur Faisal Mouafak. Il répondait au micro France Culture de Tarach Legal et ce soir à 18h dans le journal de la rédaction, retrouvez un reportage complet sur l'engorgement des urgences psychiatriques. Alors que selon un rapport publié ce matin, 4200 lits d'hospitalisation ont été supprimés en 2018 en France. En 2018, selon ce rapport de la DRES, le service statistique des ministères sociaux, on peut aussi lire dans ce document que le nombre de maternités est passé sous le seuil des 500, tandis que les urgences ont enregistré 400 000 passages supplémentaires. Un foyer de contamination au coronavirus a été détecté dans les Landes au sein d'une exploitation agricole, selon un communiqué de la préfecture des Landes hier soir. 58 personnes ont été testées mercredi, 13 cas positifs au coronavirus ont été recensés. Toutes étaient hébergées en bungalow, ces personnes dans un camping. La préfecture précise que 122 saisonniers supplémentaires ont été testés hier après-midi. Les résultats seront connus sous 24 heures.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Plus de 55 000 personnes atteintes par la Covid-19 et recensées aux États-Unis en seulement 24 heures.
Oui, c'est un nouveau record selon le décompte effectué par Reuters, s'appuyant sur des données officielles. La flambée de nouveaux cas touche 37 des 50 États américains, parmi lesquels la Floride, avec 10 000 cas confirmés au cours des dernières 24 heures. Les États-Unis sont frappés de plein fouet par la pandémie. Elle a causé déjà près de 130 000 morts. Alors qu'au Pérou, on passe le cap des 10 000 morts, selon un communiqué ce matin du ministère de la Santé. La justice turque commence aujourd'hui le procès des 20 Saoudiens qu'elle accuse de l'assassinat en octobre 2018 à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi. Un jugement par contumace. Parmi les accusés, il y a deux proches du prince héritier Mohamed Ben Salman, soupçonnés par les autorités turques d'avoir commandité le crime. L'affaire avait provoqué une crise diplomatique entre Ankara et Riyad à Istanbul. Les précisions d'Anand Lower.
Un an et 9 mois après l'assassinat de Jamal Khashoggi dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, où il pensait se rendre pour de simples formalités avant d'épouser sa fiancée turque, les amis du journaliste assistent enfin au procès de ces meurtriers présumés. Ils sont 20, tous saoudiens, mais aucun n'affrontera les juges, leur pays ayant refusé de les extrader vers la Turquie. La justice accuse 18 d'entre eux d'avoir pris part directement à l'assassinat et deux autres d'avoir ordonné et planifié le crime. Ces derniers sont des proches du prince héritier Mohamed Ben Salman, son ancien conseiller Saoud al-Qahtani et l'ancien numéro 2 du renseignement saoudien, le général Ahmed al-Assiri. Les deux hommes ont été blanchis par la justice saoudienne. 5 autres ont été condamnés à mort et 3 autres à des peines de prison, mais ces hommes ont ensuite été pardonnés publiquement par les fils du journaliste, ouvrant la voie à une probable grâce suivie d'une libération. À l'inverse, le parquet d'Istanbul réclame contre tous les accusés une peine incompressible de prison à vie pour leur rôle dans cet homicide, qualifié de volontaire, prémédité et monstrueux. La fiancée du journaliste Hatice Cengiz et la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Callamard, doivent assister à l'ouverture du procès. Il ne devrait toutefois pas résoudre la principale énigme de cette affaire au retentissement mondial, où se trouvent les restes de Jamal Khashoggi.
Anand Lower à Istanbul pour France Culture. L'Allemagne est en train d'instaurer une retraite minimum. Le projet de loi a été adopté hier au Bundestag, l'Assemblée parlementaire allemande, le Bundestag. Plus de 1 million de bénéficiaires devraient recevoir un complément de retraite à partir de 2021. Les précisions à Berlin de Romain Chevalier.
Cette réforme est un véritable coup de pouce pour les retraités allemands les plus pauvres. On estime qu'ils sont 3 millions dans le pays. Alors évidemment, tout le monde ne pourra pas bénéficier de ce minimum vieillesse, mais d'après le gouvernement, un peu plus d'un tiers de ces seniors aux faibles pensions va recevoir dès le 1er janvier 2021 un complément. Par exemple, une coiffeuse ayant cotisé 40 ans verra sa retraite passer de 512 € aujourd'hui à 960 € par mois. Dans les faits, 70% des bénéficiaires seront surtout des femmes, mais aussi des Allemands de l'Est, dont les revenus sont encore aujourd'hui plus faibles qu'à l'Ouest. En revanche, cette aide ne sera versée dans sa totalité qu'aux retraités ayant cotisé au minimum 33 ans et dont la pension ne dépasse pas 1 250 € pour une personne et 1 950 € pour un couple. Au total, cette réforme va coûter 1,3 milliard d'euros à l'État allemand chaque année.
À Berlin, Romain Chevalier pour France Culture. La météo, grand soleil partout aujourd'hui, à l'exception de quelques averses sur la région bordelaise. Les températures vont ce matin de 16 à 28 degrés du nord au sud, avec 16 degrés à Amiens et Clermont-Ferrand, 20 degrés pour Bordeaux, 19 degrés à Paris, 22 degrés à Lyon, 25 degrés à Nice et jusqu'à un maximum de 28 degrés pour Ajaccio ce matin.